C'était la grosse affaire hier, le budget fédéral. À première vue, quand j'ai vu les annonces tomber les unes après les autres, j'ai dit « Ah, il y a des affaires originales dans ce budget-là, un CELI réservé à l'habitation. » Mais à force, évidemment, d'écouter les spécialistes, je me suis aperçu qu'il n'y avait peut-être pas grand-chose, finalement, dans ce budget-là. On en parle ce matin avec Olivier Lévesque, il est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, bon matin.
Bon, alors, une première impression, là, avant de parler de chiffres, avant de parler de tout ce qu'il y a dans ce budget-là, une première impression, est-ce un bon ou un mauvais budget?
Ben, c'est embêtant, parce qu'encore une fois, c'est un budget qui est écrit à l'encre rouge, donc un déficit prévu de 52,8 milliards de dollars, et malgré toutes les pressions inflationnistes qui se trouvent sur le pays, on continue de dépenser ouvertement quand même, malgré la marge de manœuvre qui a été créée par... l'arrivée de la TPS un petit peu plus grande, considérant l'augmentation des prix dans les coffres du gouvernement fédéral.
Ouais.
Donc, c'est un peu ambigu, là. On a des prix qui sont excessivement élevés. Par contre, on se lance dans les dépenses. Donc, ça nous laisse un peu sur notre faim, là.
Bon, pour les consommateurs que nous sommes, là, de la classe moyenne, il n'y a absolument rien là-dedans.
Non, effectivement. Donc, à moins que vous prévoyiez rénover une de vos propriétés pour en faire devenir un lieu multigénérationnel, ou que vous êtes un aîné et que vous prévoyez ajouter des facettes pour rester plus longtemps dans votre maison. On a des nouveaux crédits d'impôt pour ces personnes-là, mais sinon, je vous dirais que pour la classe moyenne, il n'y a absolument rien dans ce budget-là.
Même le CELI là, qu'on prévoit pour l'habitation, à première vue, ça semble alléchant, mais quand on y pense vraiment, qui sont les jeunes qui commencent dans la vie, qui sont capables de mettre chacun de leur côté 8 000 $ par année dans un CELI?
Ben effectivement, vous avez un bon point, et c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans les mesures qui pourraient toucher la classe moyenne.
Ouais.
Parce qu'en fait, 8 000 $ par année pour quelqu'un qui sort des études et qui a des dettes d'études, un loyer à payer, l'épicerie qui est de plus en plus élevée, il faut qu'il soit également capable de se vêtir. Donc on parle d'à peu près 153 $ par semaine qu'il faudrait être capable de dégager de notre budget pour être capable de mettre le maximum de 8 000 $ par année. Les cotisations ont bien beau être déductibles comme le REER, les retraits ont bien beau être non imposables, c'est une belle mesure, oui, mais elle ne touche pas la classe moyenne, c'est beaucoup plus les mieux nantis qui vont être capables de se servir de cette mesure-là.
Et j'y arrive.
Elle n'est pas pour demain matin.
Ouais, puis j'y arrive, là. Et moi, j'ai vu hier qu'il y a un piège là-dedans. Alors, évidemment, si vous êtes une personne qui a des enfants, que vous êtes à l'aise financièrement, ben vous pourrez donner de l'argent à vos enfants qu'ils pourront souscrire dans ce CELI-là. Et là, il va se faire une passe d'argent pour certains, mais à la base, ça prend évidemment le généreux donateur.
Oui, ben effectivement. Donc, il est permis de donner de l'argent à vos enfants pour que votre enfant puisse cotiser là-dedans, donc puisse augmenter son pouvoir d'achat pour une première propriété. Donc, c'est sûr que cette mesure-là, là, elle est, bon, on pourrait la croire équitable, là. Elle peut paraître très belle politiquement, mais elle est difficilement applicable pour la classe moyenne. Encore une fois, c'est quelque chose qui va probablement favoriser les mieux nantis, là.
Bon. Autre affaire qui m'a frappé hier, c'est ce qu'on appelle faire un flip avec une maison, c'est-à-dire acheter une maison et la revendre là au bout de peu de temps. Alors le gouvernement dit vous pouvez plus faire ça en dedans d'un an, vous devez être propriétaire au moins de la maison un an. Mais tu sais, les gens seront propriétaires de la maison un an et une journée et ils pourront à nouveau flipper. Alors bref, ça aussi, ça me semble être un coup d'épée dans l'eau.
Ben, il faut savoir que historiquement, il existait déjà des indications dans la loi de l'impôt qui disaient que si vous achetez des maisons et que vous les revendez, donc dans un délai très court, et que vous faites ça plus d'une fois, vous pourriez être considéré avoir un revenu d'entreprise et non pas un gain en capital qui pourrait vous être appliqué. Donc, au lieu de payer 50% d'impôt sur la plus-value que vous allez générer, vous seriez imposé en revenu d'entreprise. Donc, qu'est-ce que le budget est venu ajouter hier? C'est que, si vous le faites en dedans de les 12 mois, à moins de, bien sûr, d'être dans les exceptions, soit un décès, une séparation, etc., ça va être automatiquement qualifié en revenu d'entreprise. Donc, ce que vous me dites, c'est vrai. Donc, en théorie, selon la mesure d'hier, si on vend 12 mois et un jour plus tard, on serait sauvé par cette règle-là qui est sortie hier. Par contre, comme je vous mentionnais dans la loi de l'impôt, c'est une règle qui existait déjà. Donc, on serait un petit peu là, barré par les dispositions qui existaient déjà dans la loi de l'impôt.
Bon, j'ai vu le budget hier, il est quand même assez épais. Y a-tu des affaires là-dedans, quand on se met à fouiller puis qu'on fouille, qu'on trouve qui pourraient être avantageuses pour les gens de la classe moyenne comme nous, là, où on pourrait avoir, disons, certains avantages?
Ben, au niveau de la classe moyenne, il faut dire il y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose pour les personnes comme vous et moi là. Il y a eu annonce d'un paiement unique de 500 $ pour soutenir les gens qui ont de la misère à se trouver un logement abordable, mais même à ça, on sait pas encore les modalités, on sait que ça va être annoncé prochainement. Donc, c'est sûr que si on cherche à aller un petit peu plus loin, la crise du logement, est-ce que ça peut toucher les gens de la classe moyenne? Oui. Donc, qu'est-ce que le gouvernement a annoncé hier? C'est qu'ils veulent doubler le rythme de construction des logements dans les 10 prochaines années. Donc, on investit massivement là-dedans. Par contre, je mets un bémol là-dessus. Donc, c'est bien du gouvernement de vouloir augmenter le rythme de construction, mais avec quelle main-d'œuvre? Avec quelle main-d'œuvre? On est en pénurie de main-d'œuvre partout au Canada. Oui. Et on annonce qu'on veut doubler le rythme de construction. Donc, encore une fois, c'est un petit peu une promesse à laquelle on va être pas capable de répondre, parce que dans le budget, il y a rien qui est pour la main d'œuvre immédiate. Donc, on n'incite pas les travailleurs expérimentés à rester sur le marché du travail. On n'amène aucun incitatif fiscal pour eux de rester sur le travail. Donc, le manque de main d'œuvre, ils veulent l'accroître au cours des 10 prochaines années. Mais la pénurie de main-d'œuvre va s'accroître, elle aussi, au cours des 10 prochaines années.
Bon, il n'y a rien pour les aînés aussi, parce que, bon, les aînés disent tout augmente, nous, nos pensions de vieillesse n'augmentent pas.
Non, effectivement, il n'y a rien pour les aînés. Donc, à l'exception du crédit d'accessibilité domiciliaire, qui, lui, grimpe de 1 500 à 3 000 $ si jamais vous faites des rénovations dans votre maison dans le but d'y rester plus longtemps. Donc, par exemple, vous avez besoin d'une rampe au lieu d'avoir des escaliers, ça pourrait compter. Donc, toutes sortes de dépenses comme ça qui pourraient être admissibles à ce crédit-là. C'est pas mal la seule chose qui pourrait viser les aînés dans le budget qui est sorti hier.
Bon, alors bref, on a bien beau en parler des heures et des heures. C'est pas un bon budget.
Ben, c'est pas un bon budget, mais il y a des choses positives. Donc, on attaque vraiment la crise du logement, malgré le défaut que je vous ai dit tantôt. On veut aller vers de l'environnement qui est un petit peu plus vert. Donc, on conserve les rabais électriques. On élimine les déductions fiscales pour l'exploitation des hydrocarbures qui sont, bon, des minéraux qui sont un peu moins favorables à l'environnement.
Ouais, mais dans la même semaine, le gouvernement annonce, là, un nouveau projet de plateforme pétrolière au large de Terre-Neuve, là, tu sais.
Oui, en effet, ça c'est un peu contradictoire avec ce qui est sorti hier, mais on ajoute certains incitatifs pour l'environnement. Donc, en quelque sorte, c'est pas 100% un mauvais budget. Il y a des belles choses, il y a des belles dépenses, mais je pense qu'on n'attaque pas vraiment les objectifs clés. Bon. Et par contre, les entreprises, elles, vont être très contentes parce que hier, il y a eu augmentation des entreprises admissibles au taux de 9%, qui est le taux d'impôt au fédéral.
Parlons d'une chose cependant, au niveau dentaire, là, les soins dentaires gratuits, est-ce qu'on a le détail de qui ça va toucher, comment ça s'applique?
Bien, en fait, on a le détail pour la majorité des provinces au Canada, parce que comme vous le savez, au Québec, nous on a la Régie de l'assurance maladie du Québec qui gère la majorité des soins de santé qui se passent dans la province. Donc, on sait qu'il va y avoir un régime des soins dentaires qui va être instauré au Canada, mais on ne sait pas encore comment les négociations avec le Québec vont aller. Est-ce que ça va être un transfert de plus en santé? Bon, ça, c'est des négociations qui restent à faire entre la province et le gouvernement fédéral.
Bon, ça fait que dans le fond, c'est une mesure, mais on ne sait pas véritablement de quelle façon elle va s'appliquer au Québec. Puis là, ben, à prévoir une chicane fédérale-provinciale, fort possiblement.
Ben en effet, parce que en plus le gouvernement québécois n'a pas eu les transferts en santé qu'ils espéraient dans le budget hier, donc effectivement, ça sera probablement une autre négociation ardue à la table au gouvernement fédéral.
Mais est-ce qu'on sait de quelle façon ça va s'appliquer dans les autres provinces?
Oui, ben en fait, on parle que pour les ménages de moins de 90 000 $, les enfants de moins de 12 ans auront accès à des frais dentaires gratuits dès 2022, et moins de 18 ans, les aînés et les personnes handicapées dès 2023.
Bon, aînés.
C'est l'annonce qu'on a dans le budget d'hier.
Aînés, c'est 65 ans et plus.
Oui, c'est exact.
Alors donc, ça veut dire qu'une personne qui a 65 ans et plus, qui vit ailleurs qu'au Québec, pourra l'an prochain obtenir tous ses soins dentaires gratuits.
Oui, ben dépendamment, à moins qu'il y ait des mesures qui soient ajoutées, mais selon les indications du budget, ça semble être le cas.
Bon, ben on verra ce qui va se passer pour le Québec. Olivier Lévesque.
Ça va être une grosse négociation.
Olivier Lévesque, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Olivier Lévesque est fiscaliste chez Raymond Chabot Grant Thornton.